Gloire à Dieu, nous continuons notre étude biblique Béréen l'explorateur, la série, et nous en sommes dans le livre au psaume 120. Donc on a fini le long psaume 119 avec tous les enseignements riches concernant la parole qu'il y avait dans le psaume 119. Là on va attaquer le psaume 120. On nous rappelle encore que c'est les cantiques de degrés. Donc nous avions dit que les cantiques de degrés, c'était les psaumes que les Juifs chantaient lorsque ils montaient au temple. Les degrés, en fait, c'est les marches d'un escalier. Voilà. Donc on appelle ça ces marches-là, on les appelle aussi des degrés. Donc dans d'autres versions, on dit psaume de l'ascension. Donc on monte vers Jérusalem. C'était aussi en même temps chanté dans le cadre de pèlerinage, puisque quand on est en Israël, pour aller à Jérusalem, on dit on monte à Jérusalem. Donc psaume de degrés, cantique de degrés, psaume d'ascension. Et nous lisons donc le psaume 120, qui n'est pas long, mais très important. Psaume 120.
Psaume 120. Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la lèvre trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier. Avec les charbons ardents du jeûner. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre.
Voilà, ce psaume, c'est un cri de détresse. Donc là, David demande l'aide de Dieu, sa protection par rapport aux gens qui ne lui veulent que du mal. Voilà, c'est quand on avait étudié le psaume 109, j'avais dit que on verra un psaume qui ressemble, qui dit des choses un peu semblable, c'était le psaume 120. Parce que dans le psaume 109, il y avait une sorte de malédiction, de série de malédictions lancées contre les méchants. Et on avait expliqué à l'époque que il y a méchanceté et méchanceté. Voilà, donc il y a le fait que nous tous, on est dans tout humain qui ait des traces de mal, des traces de méchanceté. Ça existe, mais il y a un niveau qui est très élevé où les gens sont foncièrement mauvais et qui ne pensent qu'à faire du mal. Et c'est dans ce sens-là qu'on avait expliqué la suite des malédictions qui étaient lancées contre eux dans le psaume 109. Ce caractère-là va nous est décrit aussi dans ce psaume au verset 7 quand il dit « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre », c'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent que faire du mal. Ce n'est pas lié à la tendance méchante naturelle de l'homme, non, ça c'est autre chose. Voilà, c'est ce qui fait que quand on est face à de telles personnes, c'est parfois très compliqué parce qu'on ne trouve pas d'issue. Parce qu'en tant qu'humain, on cherche toujours une issue, on cherche un arrangement, mais avec de telles personnes, il n'y a pas possibilité d'arrangement. Et ils ont une langue trompeuse. Ils disent une chose juste pour nous piéger. Ils disent pas pour construire. Donc c'est ça qui est écrit là. Délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. C'est des gens qui ont une langue trompeuse. Et David leur dit, mais qu'est-ce que ça vous donne? Rapporte une langue trompeuse? Ça te rapporte quoi? C'est comme les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du jeûner. Donc c'est vraiment des choses qui percent, qui brûlent, qui font mal. Et le psalmiste dit, mais bon, c'est très difficile de vivre dans les contrées où il y a les méchants. En quelque sorte aussi, on peut dire, c'est très difficile parfois de vivre sur terre, quoi. De faire face à une méchanceté calculée, assumée, profonde. C'est, parfois, on a envie de partir, de dire, ben non, je ne tiens pas. Mais comme on sait que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit là, alors on lui demande la délivrance. Parce que le danger avec ce genre de méchants, c'est que nous-mêmes, on devienne méchants en répondant au mal par le mal. Et voilà. Et d'autre part, on a du mal, par les circuits habituels, à trouver un arrangement. On essaye de, comme on dit, être vainqueur du mal par le bien, mais malgré ça, ils piègent. Ils font mal encore. On essaye de nous humilier devant eux, mais malgré ça, au fait, quand tu t'humilies, ils t'écrasent davantage, ils trouvent encore une raison dans ton humilité pour t'accuser encore. Du coup, il ne nous reste que quoi ? Que l'Éternel. Dire, Seigneur, délivre-moi. C'est trop compliqué, c'est trop complexe. Il y a des gens qui n'aiment que la guerre. C'est une réalité. Moi, en tant que pasteur, j'ai vu ça dans certains couples qu'on a aidés. Mais vous rendez compte qu'il y a une personne dans le couple qui ne vit que par la guerre. Elle n'apprécie pas qui est la paix. C'est vraiment démoniaque. C'est vraiment démoniaque. C'est comme l'esprit de Jézabel. Il y a des gens qui ne vivent bien que quand ils dominent sur d'autres. On peut tout leur donner, mais tant qu'ils ne dominent pas, ils ne sont pas à l'aise. Donc c'est des gens, vous allez tout faire pour négocier, pour arranger, pour essayer de... Ça ne passe pas. C'est des gens, comme il est écrit, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. C'est des gens qui ne vivent que de la guerre. Ça existe. Il faut comprendre la réalité de la race humaine. Ce genre de personnage qui ne pense qu'à guerroyer, ça existe. Et face à eux, il faut demander l'aide de Dieu. Parce que quand on résiste face à eux, on finit par craquer et à dire de mauvaises choses. Donc, face à de telles personnes, vaut mieux dire, Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide. On oublie notre âge, parce que ça peut être des gens plus jeunes que nous de loin. Maintenant, si tu veux traiter avec ces gens-là en tenant compte de ton âge, c'est toi qui vas gaffer. C'est toi qui vas faire des bêtises. Donc tu oublies ton âge, tu oublies ton expérience, tu oublies ta position dans le groupe. Tu oublies tout ça parce que si tu tiens compte de ça, c'est toi qui vas dériver. Donc tu demandes l'aide de Dieu. Et Seigneur, je fais comment ? Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider. Parce que tout ce que je trouve comme formule pour créer la paix, ça se retourne encore comme contre moi pour me faire la guerre. On a vu ça avec le Seigneur. Il dit ceci. Ils retiennent ça contre lui. Il dit cela, ils retiennent encore contre lui. C'était tout le temps comme ça. Il est dit dans Jean 11 que quand il a ressuscité Lazare, c'est en ce moment-là que les gens se sont réunis pour faire un complot pour l'éliminer. Après avoir fait du bien, finalement, tout ce qu'il pouvait faire était retenu pour lui faire du mal. C'est la méchanceté au niveau, la méchanceté satanique. Hein, on nous raconte souvent cette histoire du scorpion et de la grenouille ou du crapaud où le scorpion est en train de se noyer et puis la grenouille lui vient en aide pour lui faire traverser la rivière. Et au milieu de la rivière, le scorpion la pique. Mais elle dit, mais en me piquant, je vais mourir. Mais toi aussi, tu vas mourir par conséquent. Tu n'as pas réfléchi à ça. Le scorpion dit, mais c'est ma nature de faire du mal, de piquer. Ça existe. En fait, certains chrétiens, par manque de travail, n'arrivent pas à réaliser qu'il y a plusieurs catégories d'humains sur terre. Et parfois, quand la Bible sanctionne certaines personnes, on ne comprend pas. Mais oui, mais non, non, il y a des catégories qui ne comprennent plus que l'action divine. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire pour essayer d'arranger. Cette personne vit de la guerre. Elle vit des troubles. Elle crée des problèmes partout où elle passe. Partout. Quand la personne arrive quelque part, les problèmes commencent. Et face à de telles personnes, la meilleure stratégie, c'est de crier à Dieu, c'est de prier. Et de Seigneur, je crie, délivre mon âme de la lèvre mensongère, parce que c'est des gens qui n'hésitent pas à mentir pour avoir raison. Même si leur mensonge va être découvert deux jours après, leur problème c'est l'instant présent. Du moment que dans l'instant présent, ils peuvent créer un trouble, ils vont faire ça. Même s'ils vont être dévoilés après deux jours. C'est l'instant présent qui compte pour ces personnes-là. Ils ne cherchent pas la paix. C'est toujours la guerre. Partout où ils sont, c'est la guerre qu'ils cherchent. Et donc, il ne faut pas chercher à les gérer avec la sagesse qui a réussi avec d'autres personnes. Quand c'est comme ça, demandons l'aide du Seigneur. Crions à Dieu, parce que sinon, à vouloir gérer avec ce qui a marché avec d'autres personnes, on finit par faire des erreurs, et ça tourne encore contre nous, parce que ces gens-là, comme c'est écrit, je suis pour la paix, mais dès que je parle, en fait, tout ce que tu vas dire, la personne va trouver une faille contre toi. Ça existe. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, on demande l'aide du Seigneur. On retrouve ça aussi dans l'évangélisation de certains musulmans. C'est des gens qui ont déjà leur idée fixe, c'est de contredire la foi chrétienne. Un coup, ils vont utiliser eux-mêmes la Bible pour chercher à nous contredire. Maintenant, quand nous, maintenant, on va utiliser la Bible pour leur montrer la vérité, ils disent, mais non, mais cette partie-là, c'est pas Jésus qui l'a dit. Mais celle que toi, tu as utilisée pour me contredire, mais c'est pas non plus Jésus qui l'avait dit. Mais finalement, c'est des gens qui cherchent la guerre. Donc, tu as beau expliquer les choses, ils cherchent la guerre. Quand tu es dans cette configuration-là, vaut mieux demander l'aide du Seigneur. Dis, Seigneur, je dis quoi dans cet échange-là? Parce que les armes habituelles ne vont pas fonctionner avec ces personnes-là, parce que dans tout ce que vous voulez faire pour les aider à comprendre, eux, ils vont utiliser ça encore contre vous. Parce qu'ils sont dans un état d'esprit de chercher la guerre, de chercher la destruction. C'est des choses à savoir, qu'il y a des gens comme ça, et quand on est face à ces personnes-là, on prie pour elles, on prie pour l'intervention divine. Donc, comme il est écrit, délivre-moi de la langue trompeuse et mensongère. Voilà, nous allons passer au psaume 121. Psaume 121.
Cantique des degrés. Pardon. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Amen, amen. Voilà, ça c'est le psaume non seulement du secours de Dieu, mais qui exprime la protection, le fait que Dieu nous garde d'une manière continuelle. Voilà. Il nous garde à tout moment. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il y a une partie où il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc il y a ces deux parties-là. Le secours ne peut venir que de Dieu. Maintenant, le psalmiste commente pourquoi le secours ne peut venir que de l'Éternel. Donc la réparation en quelque sorte. Mais puisque c'est lui qui a créé, il dit, qui a fait les cieux et la terre. C'est, comme c'est lui qui a créé, forcément, il sait comment faire la suite. Il sait comment réparer. Et quand on cite les cieux et la terre, ça nous aide aussi dans quel sens? Leur immensité, leur complexité. On se dit, mais si quelqu'un a pu faire quelque chose d'immense comme ça, de complexe comme ça, c'est qu'il peut me guérir. C'est qu'il peut me sortir de prison. C'est qu'il peut me donner la victoire sur un péché. Regarde ce qu'il lui a fait. Voilà, donc l'immensité de la création est là pour nous encourager à dire, mais l'auteur de tout ça, eh bien, si je crie à lui, il peut agir. Il y a aussi le côté source. Vous savez, il y a un philosophe, il est qui hein? Ça doit être un philosophe romain, qui a dit, ben, puisque selon lui, nous venons, en quelque sorte, c'est le hasard qui pilote la vie des gens, il a dit donc forcément, notre vie est hasardeuse. C'est-à-dire que si c'est le hasard qui nous a produits, ben c'est le hasard aussi qui nous perdra, c'est le hasard aussi qui nous fera gagner ou réussir les choses, puisque ceci, c'est le hasard qui nous a produits. Oh, ça, c'est le désordre. Il voilà, n'y a, a pas d'assurance dans ce genre de phrase, donc vous comptez sur le hasard. Il n'y a rien. C'est ça qui crée des dépressions et d'esprit d'anéantissement, puisqu'on se dit, le hasard m'a produit, je ne sais pas d'où. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu que je sois là, je suis né comme ça. Et puis, donc, finalement, notre vie est hasardeuse, et c'est ça qui peut pousser les gens à mener une vie de désordre en se disant, tout est hasardeux. Mais. Il y a une part de vérité dans ce raisonnement-là de dire, mais c'est la source, si la source a produit, la source peut gérer la suite. Donc la source, c'est Dieu. Il a fait les cieux et la terre. S'il a fait les cieux et la terre, donc il nous a fait, il peut donc gérer la suite. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ça viendra que de la source. Donc on peut être sûr qu'en criant à Dieu, on ne se trompe pas, puisqu'il est la source. Et deuxièmement, comme on l'a dit, les cieux et la terre montrent la gloire de Dieu. Ils sont tellement beaux, les cieux, les étoiles, les galaxies, sont tellement grands. Non seulement grands, vous vous rendez compte, le soleil donne de la lumière, ça fait des milliards d'heures, des milliards de jours, ça donne de la lumière, selon les calculs humains, même des milliards d'années. Et nous, on sait que ce n'est pas des milliards d'années, mais peu importe que ce soit pendant 1000 ans, il n'y a pas d'interrupteur pour éteindre. Ça ne fait que briller. Et tout ça, c'est un processus chimique, physique, physico-chimique, complexe. C'est comme s'il y a des explosions, voilà, une explosion continuelle, sans s'arrêter. En maintenant le même rythme. Au fait, scientifiquement, c'est trop grand. C'est que juste une étoile, c'est trop grand. Alors vous imaginez, maintenant, il y en a des milliards. Et ça, c'est que des étoiles. Après, il y a des créatures hautes complexes, les trous noirs, les supernovas, il y a plein de choses. Bon, est-ce que quelqu'un comme ça
peut être incapable de m'aider. Est-ce qu'il est incapable de me secourir? Comme un monsieur qui dit à Jésus, si tu peux faire que je sois guéri. Jésus lui dit, si tu peux, ça veut dire quoi? Si tu veux, c'est l'autre dont l'enfant était lunatique, les disciples ne sont pas arrivés à le délivrer. C'est celui-là qui a dit à Jésus, mais si tes disciples n'ont pas pu délivrer mon fils, si tu peux. Jésus lui a dit, oh, mais ça c'est pas un problème, c'est ton problème. Le problème c'est que, est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu crois que moi je peux faire ça? C'est la foi. Aujourd'hui, bien aimé, notre vrai problème c'est quoi? C'est la foi. Moi je prie tout le temps pour la foi. Je dis, puisque je suis conscient que j'ai pas la foi telle que la Bible présente les choses. Parce que, au fait, si on avait, quand Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à une montagne de se déplacer. Il a vraiment raison. Donc la Bible présente les choses avec une telle facilité, avec une telle aisance concernant les capacités de Dieu, que la vie de tous les jours ne nous aide pas à accepter, en fait. On a un blocage. Peut-être que par la prière, ça va sauter. On a besoin que ce blocage-là saute, que notre foi soit limpide, que ça passe. Je crois que le jour où cette jonction est faite, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui permet ça, quand on voit dans les Actes des Apôtres, je crois que c'est le Saint-Esprit quand il est venu, et il a brisé le blocage qui empêchait aussi que les apôtres aient une foi vraiment d'enfant, une foi libre. Et quand ils ont eu cette foi-là, ben Pierre pouvait dire, je n'ai ni argent ni or, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est vraiment la foi, parce que le même Jésus est aujourd'hui, et comme il était autrefois, mais c'est que nous avons connu des décennies, des siècles de baisse de foi, et pour que tout cela revienne, il faut une action divine, puissante par le Saint-Esprit, pour briser toutes les forteresses qui se sont mises entre nous et la vérité. Et on croit, comme le monsieur dont l'enfant était lunatique, il a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il croyait que Jésus pouvait, mais ce n'était pas la foi attendue pour la guérison de son fils. Il était conscient qu'il n'arrivait pas à franchir une certaine zone spirituelle qui ferait que sa foi toucherait vraiment Dieu. Il était conscient de ça. Dû à quoi? Mais ça fait des années que ce garçon-là est comme ça. C'est un juif, il a dû prier, mais ça n'a pas changé. Imaginez que vous priez toute une nuit, et le matin, la situation n'a pas changé. Et puis, un autre problème, c'est que les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus, qui étaient habitués à faire des miracles à gauche, à droite, à chasser les démons, mais arrivé à ce cas-là, il y a blocage. Donc cet homme, donc même s'il croyait en Jésus, mais tout ça avait mis un frein quelque part. Ma prière, voilà, on va faire la prière après mon intervention, pour que Dieu brise tous les obstacles qui nous empêchent d'entrer dans la foi simple. Vous savez, la foi des portes automatiques. Hein? Donc quand tu vois bien que c'est fermé, mais tu sais que c'est automatique. C'est-à-dire, quand tu vas t'approcher, c'est là que ça va s'ouvrir. C'est ça qui nous manque. Il nous manque cette foi-là où tu vas avancer et tu sais que ça va s'ouvrir. La foi des 30 de péage. Vous savez, il y a des péages où c'est écrit 30. Et si tu avances à 30 km, tu as ton bip, il va s'ouvrir. Mais peu de gens font ça. Les gens finissent toujours par freiner parce qu'ils ont peur que ça ne s'ouvre pas. Eh bien, c'est ça qui nous manque. Où tu avances franchement, tu sais que le mécanisme va s'ouvrir. Mais l'homme imagine toujours, ah mais si ça ne s'ouvre pas, ça fait partie de nos problèmes. Mais si ça ne marche pas, il y a une semaine, j'avais la même foi, mais telle chose n'avait pas marché. Mais, bien aimé, le passé, c'est le passé. Chaque jour, on doit avoir la foi. Même si hier, on avait et qu'on n'a pas eu ce qu'on cherchait à obtenir, ben aujourd'hui, ben, que notre foi soit 100%. Et il a dit à Jésus, j'ai du mal, sincèrement, je crois vraiment en toi, mais j'ai du mal. Aide-moi. C'est ce que nous allons dire au Seigneur. Nous croyons, mais notre vie témoigne que nous ne croyons pas bien. En tout cas, moi, je parle pour moi. Voilà. Ça témoigne que ce n'est pas la dimension attendue par Dieu. Il y a des blocages. Il y a des craintes. Je crois qu'on avait fait une pensée du jour dernièrement, la peur latente. Voilà. Il y a une crainte latente qui est là, comme une atmosphère autour de nous, qui nous empêche d'être libres. Voilà. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On est sans cesse à réfléchir. Tu avais les poches vides. Tu te disais, ah, Dieu ne va pas me laisser quand même mourir de faim, il va m'aider. D'un coup, tu te retrouves avec 2000 euros que tu n'avais pas médité. Tu te disais que Dieu allait t'aider, mais bon, à hauteur de 50 ou de 100 euros pour parer aux problèmes urgents. Mais toi, tu te retrouves avec 2000. Tu te retrouves avec 2000, mais deux jours après, tu continues à trembler. Ah, mais quand ça va finir? Voilà. Au fait, malgré une action divine, il y a comme une peur latente, voilà, des raisonnements, des réflexions. Au fait, on n'est pas comme des enfants. Au lieu de dire bêtement comme un enfant, oh, mais si Dieu a pu me donner 2000 alors que j'en attendais 50, ben c'est fini. Chaque jour, je peux vraiment lui faire confiance. Ah non! Nous, on se dit, surtout pas dépenser. Donc là, je mets 1900 en dessous du matelas et puis je vais gérer les 100 là parce que on ne sait pas les jours, les mois. Ah, mais Dieu dit, mais finalement, ces gens-là, ils veulent quoi? C'est notre problème. Vous voyez que quelqu'un était simple, il devient compliqué. Parce que on a du mal à avoir une foi d'enfant libre. Dieu dit, mais je suis votre papa. C'est moi qui viens de te donner là. Et maintenant, là, tu commences à faire des longues réflexions. Et puis, il y a une voix qui te dit, ah, mais c'est irresponsable. C'est pas parce que Dieu t'a donné 2000 que, voilà, non, calcule quand même tes dépenses. Hein. Mais non, mais Dieu t'a donné pour que tu manges, pour que tu te réjouisses, parce que tu avais des difficultés. Maintenant, ça devient, non. Pour telle viande, je vais changer de boutique parce que là-bas, c'est trop cher. Mais on vient de te donner pour la noix chère. On vient de te donner. C'est ça, tu dis, mais oui, mais moi, je viens de te donner. Ton problème, c'est que, mais est-ce qu'il donnera encore demain? C'est ça, notre problème. Comme je ne sais pas, c'est maintenant le calcul qui revient. On a un problème. Moi, je sens en tout cas que je n'ai pas la foi que Dieu attend. Je sais pas. Dû à, voilà, à l'humanité, dû à, voilà, et ce passage nous exhorte vraiment à réaliser que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Quand on te montre le fonctionnement de l'œil, tu es dépassé. Comment deux yeux regardent tous toujours au même endroit. Tous au même endroit. Et plein d'autres choses. le fonctionnement d'une cellule, et nous on en a des milliards, mais une seule cellule est un monde, est un univers. Une seule cellule, mais nous on en a des milliards. Maintenant quand tu penses que tout ça maintenant se réunisse, tout ça se réunit, comment avec chaque chose complexe comme ça en se réunissant, ça fonctionne quand même d'une manière coordonnée? Mais Dieu dit, mais c'est moi qui ai fait tout ça. C'est pourquoi David dit, qui a fait les cieux et la terre? Le secours vient de lui. Si tu te réalises ce qu'il a fait, tu sais qu'il va te secourir. Qu'est-ce qu'on doit faire quand, malgré tout, on est comme ce monsieur-là de Matthieu, c'est Marc 9, je crois. Quand on est comme ce monsieur-là, on dit, mais viens au secours de mon incrédulité. Mais on doit prier. Comme lui a prié, il a dit, Seigneur, je crois d'une manière générale, mais ce problème-là a trop duré, j'ai du mal. Aide-moi. Donc, on doit prier pour que le Seigneur nous libère. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous venons prier pour que tu nous libères de ce qui nous empêche d'avoir une foi d'enfant. Toutes ces forteresses qu'on a accumulées au fil de notre éducation, de notre cursus scolaire, au fil de déceptions, au fil de difficultés, d'épreuves, on a accumulé de forteresses d'incrédulité qui nous empêchent d'avoir la foi liée à Jean 8 qui dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». On n'est pas libre, Seigneur. On n'est pas libre. Seigneur, libère-nous, Seigneur. Comme on a chanté tout à l'heure, Dieu de Jacob soutient ma foi. Libère-nous. Nous nous souvenons de notre ami Jonathan dans la Bible. Il est allé en guerre alors qu'ils étaient à deux. Il a dit, mais je me bats au nom de l'Éternel, mais qu'est-ce qu'est le nombre pour l'Éternel? Il est parti affronter des milliers de personnes parce qu'il s'est dit que c'était toi qui étais avec lui. Seigneur, que notre foi repose sur toi et non sur notre vécu. Que notre foi repose sur toi et non sur nos capacités. Que les échecs du passé soit vaincu par ton esprit. Que ton esprit soit déversé sur ton peuple. Restaure notre foi. Seigneur, aujourd'hui, les fausses doctrines ont pour origine aussi, à part d'autres origines, elles ont pour origine la baisse de la foi. C'est pourquoi les gens se sentent obligés de demander l'argent, de bâtir des stratégies, de manipulation. Seigneur, la foi nous empêchera d'aller ailleurs. Ramène-nous dans la foi simple d'enfant, que nous marchions selon l'esprit et non selon les raisonnements humains. Au nom de Jésus, que nous nous souvenions que c'est toi qui as fait les cieux et la terre. À chaque fois que nous sommes face à un problème, que nous nous souvenions que toi tu es le Créateur, que nous regardions à la complexité, à la beauté, à la gloire de la création pour nous dire, eh bien, le Seigneur va faire encore. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et il nous est dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Nous, on a intitulé ce chapitre « Il ne sommeille ni ne dort » parce qu'on sait que Dieu nous garde, comme on vient de le dire, on le sait d'une manière générale. Mais là, il y a une précision qui nous est apportée. Il ne sommeille même pas. Donc Dieu ne connaît même pas une certaine somnolence. Vous savez, il y a des micro-sommeils qui peuvent te prendre pour 15 secondes, 5 secondes. Mais lui ne connaît même pas ça. Ses yeux sont toujours ouverts. Il sait ce qui se passe. Donc quand il est au gardien, il va l'être vraiment sérieusement parce que lui ne dort pas. Même les gardiens, les vigiles, ils dorment à un moment donné. Moi, je vois dans tous les vols que nous prenons, les vols de nuit, non, même pas vols de nuit, les vols de plus de 8 heures, même pas plus de 8 heures, excusez-moi, les vols de plus de 7 heures. Les travailleurs de l'avion, ils ont des trous de repos. Tu te dis, mais c'est, pourtant c'est leur travail. Ils ont eu à se reposer 2 à 3 jours avant de prendre le vol. Mais malgré ça, on leur a prévu quand même de temps de repos pour aller dormir. Ils ont leur chambre, donc ils ouvrent en dessous de là où nous on est assis. Ils ont des petites chambrettes où ils vont dormir. Hein. Pourtant, c'est leur boulot de ne pas dormir, puisque c'est eux qui gèrent l'avion. Mais non, on a prévu qu'ils vont être fatigués. Vaut mieux qu'on prévoie 2 ou 3 heures de sommeil. C'est des réalités, bien-aimés. C'est des réalités. Mais Dieu ne connaît pas du tout ça. Pas du tout. On a vu des grands de ce monde. Face à certaines maladies, on est obligé de leur faire une anesthésie générale. Donc là, il est entre les mains des médecins. Donc si les médecins décident de ne pas le réveiller, c'est fini, le dictateur il est parti. C'est pourquoi ils font ça avec leurs médecins vraiment très proches à côté. Mais Dieu ne connaît pas ça, donc il est le fidèle gardien. Il est écrit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Nuit et jour. Tout ce qui peut arriver pendant le jour, il veille sur ça. Tout ce qui peut arriver pendant la nuit, il veille. Ça rejoint le psaume 4 qui dit « Je me couche, je m'endors en paix, parce que toi, Éternel, tu veilles sur moi. Hein? » Ça rejoint ça. Et il dit au verset 8 « Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Que ce soit nos départs et arrivées de certains voyages sur terre, que ce soit le départ principal, c'est-à-dire la naissance et la mort, tout ça, c'est encadré par Dieu. C'est beau de savoir tout ça. C'est beau de se rappeler tout ça. Ça crée la paix. Quand tu vas dormir, tu vas vraiment dormir. La foi, c'est tout ça. Ça produit le sommeil. Parce que tu sais que Dieu te garde. Tu es comme un enfant. Comme on va le voir dans le psaume 131, je crois. Tu es comme un enfant sevré. Tu t'inquiètes de rien. Il peut y avoir la guerre, mais tant que ta maman te porte, mais toi, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. C'est la même relation qu'on doit avoir avec Dieu. Le psaume 122.
Psaume 122. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. » Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton honneur, tout pour ton bonheur.
Amen, amen, amen. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'est là où se trouve la maison de l'Éternel, le temple du Seigneur. Et David dit, je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, il ne dit pas que tous les humains sont bons dans la maison de l'Éternel, tous les humains sont corrects. Non, c'est la maison de son Dieu. Voilà, il y a une relation avec Dieu qui gomme les imperfections qu'il peut y avoir dans l'environnement. C'est ça qui manque dans les milieux chrétiens. Une relation personnelle avec Dieu qui gomme toutes les imperfections qu'il y a dans les humains. Beaucoup veulent un endroit parfait où tout le monde se comporte comme Jésus à 100%. Non! David est dans la joie puisque c'est la maison de son papa. Voilà. Maintenant, il y a des frères vraiment et des sœurs qui se comportent très bien. Il le dit, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Il y a des gens vraiment qui sont valables. Donc, pour ces gens-là, Seigneur, je veux la paix dans cette maison-là. Et pour toi aussi, parce qu'il dit aussi, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je veux la paix à Jérusalem. Puisque Dieu aime cet endroit-là. Donc ma relation avec Dieu fait que je veux que ça soit bien. Là, vous savez, les gens qui font comité de parents dans les écoles. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'il y a leurs enfants là-bas. Mais quand ils le font, ils le font pas. Ils prennent des décisions, ils font du travail. C'est pas seulement pour leurs enfants. Tous les autres enfants vont en profiter. Mais parce que eux, ils font ça pour leurs enfants. Voilà. Donc, souvent je dis à certains bien-aimés, oui, il y a des mauvaises personnes parfois dans nos assemblées, mais il y en a aussi de bonnes. Donc, moi, je ne peux pas, moi, faire souffrir les bonnes parce que les mauvaises sont là. Donc, je dois avoir une attitude qui rende la vie agréable aux bons. Et en ayant cette attitude qui rend la vie agréable au bon, les mauvais aussi vont sentir cet amour-là, ce bonheur, et Dieu peut-être va les toucher. Certains prennent des dispositions à cause des mauvais qu'il y a. Maintenant, mais il y a aussi des bons. Il y a des gens aussi qui sont prêts à sacrifier leur vie pour toi. Donc tu vas les mettre de côté parce qu'il y a des gens qui t'embêtent. Non. David dit, j'aime Jérusalem. Et je veux sa paix parce qu'il y a des frères dignes, il y a des amis qui en valent la peine. Mais après, cette paix-là va profiter aux mauvais aussi. Comme Dieu fait luire son soleil sur les bons et les mauvais. Donc on ne peut pas choisir les endroits. Mais là, je ne veux pas aller parce qu'il y a des mauvais. Non, il y a aussi des bons. On doit aimer les bons aussi. Et on utilise cet amour-là pour le bon, pour supporter les mauvais, pour supporter l'environnement. Bien-aimé, mais nous, on va parfois dans des missions où tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu vas là-bas parce que tu sais que... Parce que quand on parle de la maison de l'Éternel, c'est l'œuvre de Dieu, en fait. La joie, hein, on a intitulé ça la joie dans l'œuvre de l'Éternel. Il y a des missions où tu ne sais pas comment tu vas être accueilli. On t'a invité quelque part, tu ne sais pas comment ils vont considérer ce que tu prêches. Tu ne sais pas, est-ce que quelqu'un va être touché? C'est un terrain miné. Parfois, tu as appris des choses. Mais, puisque c'est l'œuvre de l'Éternel, j'y vais. Les gens pensent qu'ils entendent qu'on va en mission, que c'est facile, c'est pas facile. Il y a des moments où il y a une grande hésitation. Moi, la dernière mission que j'ai faite en Afrique du Sud, pour que je déclenche le processus d'acheter le billet, ça a été lourd. Il y a des pressions sataniques. Tu te dis, mais tu vas faire quoi là-bas? Tu n'as rien, tu n'es pas fort. Il y a des pressions. Et puis, paf! Je vais recevoir un email d'Air France qui dit ben, il y a des vols à prix préférentiel. Je dis, mais Dieu est puissant. Il a vu que j'hésitais. Il a vu que je n'étais pas à l'aise. Et on m'envoie le mail pour me proposer le vol. C'est... Voilà. Mais tu te dis, c'est l'œuvre de l'Éternel. Du moment que je sais que Dieu le veut, ben, je suis dans la joie. J'y vais, advienne qui pourra, donc je viens, je vais, et c'est Dieu qui fera ce qu'il veut. Moi, c'est que, comme Jésus a dit, là où je suis, c'est là où que ce sera mon C'est là où sera mon serviteur. Voilà, donc il m'a donné rendez-vous là-bas, ben j'y vais. Il ne faut pas croire que nous allons en conquérant avec beaucoup de force. Ah non, pas du tout. On y va parce que Dieu nous a donné rendez-vous dans tel endroit. Ce n'est pas parce qu'on a des, on est sûr du succès, on est sûr de la vie. Pas du tout. Donc on y va pour rencontrer Dieu dans son œuvre. L'œuvre de l'Éternel, c'est beau. L'œuvre de l'Éternel, c'est agréable. Il y a des visites qu'on fait. Comme ça, on te dit, ah, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que j'aimerais que tu rencontres telle personne pour lui parler de Dieu. Mais tu ne sais pas. Et parfois, tu sais, au contraire, que cette personne avait mal parlé de toi. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, tu es obligé d'aller la voir. Donc, tu te prépares à ce que tu sois rabroué, mais c'est l'œuvre de Dieu. S'il faut être rabroué pour l'œuvre de Dieu, on est dans la joie. Bien-aimé, c'est ça. Je suis dans la joie quand je suis dans l'œuvre de Dieu. Donc, dans l'œuvre de Dieu, l'environnement n'est pas forcément agréable, humainement parlant. Mais le fait que ce soit l'œuvre de Dieu, la maison de l'Éternel, ça rend ça agréable. À cause de mon Dieu, à cause des justes, à cause de mes amis qui aiment Dieu, j'y vais, même si autour, il y a des gens mal intentionnés, des gens qui font des coups bas. Mais moi, à cause de mon Dieu, j'y vais. Voilà, je suis dans la joie. C'est ça le psaume 122, la joie de l'œuvre de l'Éternel. Pas être tout le temps là à réfléchir, mais tel a dit telle phrase, qu'est-ce qu'il pensait? Oh, c'est pas ton problème ce qu'il pensait. Toi, ton problème, c'est Dieu. Mais un tel a fait ceci. Mais est-ce que ce n'était pas contre moi? Non. Sois libre. Pour ton Dieu, pour les amis, pour les justes, fais l'œuvre de l'Éternel, où que ce soit. Parfois, on nous envoie en terrain miné, c'est-à-dire les gens nous attendent pour nous bastonner. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, on y va quand même. On y va quand même. Mais on nous a prévenu que là-bas, ils ont entendu parler de toi, mais ils attendent que tu viennes, tu vas entendre les questions là-bas. Mais tu dis, mais bon, que je me fasse massacrer au nom de l'Éternel. Voilà. C'est l'œuvre de l'Éternel, je suis dans la joie de faire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont dit, ah mais, en parlant de mon ami Stanley Day, ils ont dit, ah mais lui, c'est comme s'il cherchait seulement à être massacré au nom de l'Éternel. Oui, parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient peur d'aucun danger. Les gens en ont conclu qu'il cherchait la mort. Non, c'est pas ça. Lui, il est content d'apporter la parole. C'était auprès des tribus. Il est Yali. Le seigneur de la terre, comment il s'appelait. Les gens ne comprenaient pas qu'il n'ait peur d'aucun danger. Et ils ont conclu qu'il cherchait la mort. Il ne cherchait pas la mort. Il était dans la joie de servir le Seigneur. Quel que soit l'endroit. Et bien sûr, il est mort comme ça. On l'a tué de d'une centaine de flèches. Voilà. Mais bon, le Seigneur a fait quand même un miracle. Malgré le nombre de flèches, il restait debout. Voilà. Et c'est ça. C'est des gens qui sont contents de servir Dieu. Ils ne calculent pas, mais c'est des tribus sauvages, c'est de ça. Mais non, non. Il y a un tel là-bas. Un tel, c'est son problème. Moi, je vais pour les justes. Moi, je vais pour mon Dieu. C'est l'œuvre de mon Dieu. Là où Dieu m'envoie, j'y vais. Ils ne disent pas comme certains fixent les conditions. Il faut m'acheter un billet, classe business. Il faut qu'il y ait une 4x4 qui me récupère à l'aéroport. C'est des escrocs, ces gens-là. C'est des fous, même. Il faut qu'on dise les choses, bien-aimés. Ce n'est pas normal. Normalement, la joie pour servir Dieu doit nous placer dans accepter toutes les conditions, puisque servir Dieu nous procure la joie. Nous passons au psaume 123. Oui, question?
Donc c'est une question qui peut être posée à la fin, parce que ça ne concerne pas directement les psaumes okay. qu'on est en train de lire.
Psaume 123.
Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains.
Voilà, ça fait partie de la vie des justes sur terre. On va se moquer régulièrement d'eux. C'est une réalité. Et c'est cette erreur-là qu'ont commise beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu en se disant qu'en prêchant la vérité, en faisant les choses dans la droiture, ça allait leur apporter une certaine réussite. Ah ben, c'était ça l'erreur. Et quand ils n'ont pas eu de réussite, ils ont voulu en inventer et ils se sont compromis. Voilà. Un juste doit comprendre que la vie lui sera difficile sur terre. Parce que l'être humain a du mal à accepter la vérité divine, a du mal à accepter l'amour. Mais l'amour a un côté, excusez-moi les termes, injuste. Il y a quelqu'un qui m'a dit, après un certain temps de débat avec, qu'il m'a vu avec d'autres personnes, il a dit, mais est-ce qu'au ciel, on pourra dire aux gens qui débattaient bêtement, voilà, vous aviez tort. Moi j'ai dit non, c'est ça l'amour. Arriver là-bas, on ne va plus tenir compte de tout ça. Ça serait oublié. L'amour a un côté, voilà, c'est comme si les mauvais sont mieux avantagés. C'est ça l'amour. Et ça, c'est ce que le juste va vivre. Il va vivre que, malgré parfois la méchanceté qu'il subit, mais les méchants, Dieu les aime quand même, il les aide, il leur donne la nourriture.